Vous êtes avec SBS French.
Et les principales actualités de ce jeudi 10 septembre. Révélation choc sur Donald Trump qui aurait minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus. En Grèce, état d'urgence décrété sur l'île de Lesbos après l'incendie du plus grand centre de demandeurs d'asile. Et en France, le procès des attentats de Charlie Hebdo se poursuit. Il donne en ce moment la parole aux rescapés. On commence avec un point sur le Covid-19 en Australie. Dans le Victoria, le virus a désormais fait plus de 700 victimes. En revanche, le nombre de nouveaux cas continue de diminuer, 51 aujourd'hui contre 76 hier, ce qui fait baisser la moyenne sur 14 jours à 74,5 cas par jour. On se rapproche donc doucement, tout doucement, de l'objectif fixé en la matière par Daniel Andrews, entre 130 et 50 nouveaux cas par jour, en moyenne sur 14 jours. C'est la condition pour déconfiner Melbourne. Et à Sydney, l'alerte est donnée après qu'un club du quartier de Waverley, l'Eastern Suburbs Legion Club, ait été fréquenté à plusieurs reprises par deux personnes qui étaient porteuses du virus. Alors, si vous vous y êtes rendu, également, comme lui, comme ces personnes, le 28 août, entre 5h et 6h30 de l'après-midi, allez vite vous faire tester et restez isolé jusqu'à l'obtention des résultats. Les deux personnes positives y sont retournées en fait plusieurs fois. Elles ont également fréquenté cet établissement le 1er, le 4, le 5 et le 6 septembre, toujours en fin d'après-midi, début de soirée. Et le virus, il est également sur toutes les lèvres ces jours-ci aux États-Unis en cause des enregistrements audio de Donald Trump. On l'entend admettre avoir minimisé les dangers du coronavirus. Ces enregistrements, ils ont été rendus publics par le journaliste Bob Woodward. Woodward, c'est l'un des deux reporters qui a révélé il y a maintenant plus de 40 ans le scandale du Watergate qui a poussé le président Richard Nixon à la démission. Il est toujours en activité, il s'apprête à vrai dire à publier un nouveau livre sur les coulisses de la présidence de Donald Trump, qui est très attendu aux États-Unis. Donald Trump, lui, voit dans ce nouveau livre la volonté confirmée que quelqu'un cherche à l'abattre politiquement. Quant à la minimisation de la pandémie, il la justifie en expliquant qu'il ne voulait pas provoquer la panique.
Well, I think if you said in order to reduce panic, perhaps that's so. The fact is, I'm a cheerleader for this country. I love our country. And I don't want people to be frightened. I don't want to create panic, as you say. And certainly, I'm not going to drive this country or the world into a frenzy. We want to show confidence. We want to show strength. We want to show strength as a nation. And that's what I've done.
Revenons maintenant en Australie avec une annonce qui réjouit les communautés aborigènes puisque une ferme qui se trouve dans le territoire du Nord est la première qui a été rétrocédée aux aborigènes et plus précisément à la tribu Gurindji. Elle leur appartient désormais de plein droit. Ils vont pouvoir y chasser, transmettre leur savoir sur la terre et les rivières, mais aussi y organiser des activités rituelles et des cérémonies. La nouvelle réjouit emplie de joie Lisa Smiler, qui est elle-même une Gurindji. C'est son grand-père qui avait lancé cette bataille pour regagner la possession de ces terres. Elle a exprimé sa liesse sur la chaîne NITV.
I'm really proud for what he's done and for the Gurindji people and yeah, leaving his legacy and to us to take on the legacy for him.
La pandémie, apparemment, ça donne soif. D'après une étude menée par le RMIT, 40% des Australiens reconnaissent boire davantage d'alcool depuis le début de la pandémie. Ils consommeraient également davantage de cannabis. Cette même étude, elle révèle également qu'ils ont également plus tendance à boire ou à fumer seuls. En tout cas plus qu'avant, et ces résultats vont à vrai dire dans le même sens que ce que se constatent les marchands de vin, puisque entre le mois de mars et d'avril, les ventes de goon, vous savez le goon c'est le cubi version australienne, et bien les ventes de goon elles ont augmenté de plus de 20%. L'état d'urgence décrété sur l'île de Lesbos, en Grèce, il pourrait, d'après les autorités grecques, être maintenu pendant au moins 4 mois. Et il intervient au lendemain d'un incendie terrible qui a entièrement détruit le centre de demandeurs d'asile qui se trouve sur cette île. Plus de 13 000 personnes sont donc désormais sans abri. Alors comment ça se passe sur place ? Joël Bronner, qui est correspondant à Athènes pour RFI, a contacté une habitante de la ville de Mytilène. Mytilène, c'est la capitale de l'île de Lesbos.
Installé à Athènes, Vangelis Kalogeroganis est avocat. Ce trentenaire est originaire de Mytilène. Depuis son bureau du centre de la capitale grecque, il appelle une de ses amies qui vit sur place pour prendre des nouvelles de la situation à Lesbos. Celle-ci préfère ne pas donner son nom, ce qui souligne au passage le climat tendu qui règne à l'heure actuelle sur cette île de la mer Égée, voisine de la Turquie. Cette habitante de Mytilène est visiblement effrayée par la situation en cours.
Depuis l'incendie qui s'est déroulé en pleine nuit, vers 2h30, 3h du matin, nous n'osons pas sortir. Les forces de l'ordre essayent de regrouper les migrants, mais vous comprenez bien que c'est impossible de maintenir 12 000 personnes dans un même endroit. Nous en sommes encore à essayer de comprendre ce qu'il vient de se passer et par ailleurs, nous avons aussi peur de la diffusion du Covid. Il vient d'y avoir plusieurs cas positifs détectés à Moria ces derniers jours et ils ont été en contact avec de nombreuses autres personnes. Donc maintenant, nous craignons que le virus ne se répande comme une traînée de poudre.
Les autorités ont rapidement annoncé que les demandeurs d'asile de Moria ne seraient pas autorisés à quitter l'île. Une annonce qui fait craindre à cette habitante la possibilité que toute l'île puisse par ricochet se retrouver en quarantaine. Joël Bronner, Athènes RFI.
En Biélorussie, les autorités soufflent le chaud et le froid. D'un côté, le président Loukachenko, dont la réélection est contestée depuis maintenant des semaines, a confié dans une interview à un média russe qu'il ne s'opposait pas à l'organisation d'une élection anticipée, ni même à une révision de la Constitution. Et dans le même temps, deux figures importantes de l'opposition, Maria Kolesnikova et Maxime Zouak, ont été arrêtées par la police pour atteinte à la sûreté de l'État, d'après les autorités. On fait le point sur la situation avec Anastasia Becchio pour RFI.
Après avoir enfermé ou contraint à l'exil les membres du Conseil de coordination de l'opposition, les autorités biélorusses sortent une nouvelle carte. Maria Kolesnikova et Maxime Znak sont incarcérés pour atteinte à la sécurité nationale. Le comité d'enquête biélorusse estime qu'en tant que membres du Conseil de coordination de l'opposition, ils ont mené des actions visant à déstabiliser la situation sociopolitique et économique du pays et à porter atteinte à la sécurité nationale. Des faits passibles de 2 à 5 ans de prison. À 38 ans, Maria Kolesnikova est la figure de proue des contestations. Elle est la dernière du trio féminin qui a conduit la campagne anti-Loukachenko à se trouver encore sur le sol biélorusse. Ayant résisté à une tentative des autorités de l'exiler, elle se retrouve incarcérée. Son allié, l'avocat Maxime Znak, a lui été arrêté ce matin à Minsk. Après cette arrestation, il ne reste plus en Biélorussie qu'une seule représentante de la direction du Conseil de coordination de l'opposition libre de ses mouvements, la prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch. Des inconnus ont essayé d'entrer chez elle ce matin, des diplomates de plusieurs pays européens dont la Pologne, la République tchèque, l'Allemagne, la Suisse sont venus à son domicile pour empêcher toute arrestation ou enlèvement.
Le vice-président de la Commission européenne doit se rendre aujourd'hui à Londres. Il vient demander des comptes au gouvernement après le vote d'une loi mercredi au Parlement britannique qui remet partiellement en cause l'accord conclu avec l'Union européenne dans le cadre du Brexit. L'ambiance est garantie d'être tendue. On va écouter les explications d'Emeline Vin pour RFI.
Il reste du temps, mais il faut commencer maintenant, a martelé ce mercredi le ministre de l'Industrie, Léo Varadkar. Le plan de préparation Brexit, 60 pages qui couvre tous les secteurs, de l'agroalimentaire à la pharmaceutique, vise à fournir une liste de ressources aux entreprises. Qui contacter, quelles démarches administratives, quels changements réaliser dans l'entreprise avant la fin de l'année, date à laquelle le Royaume-Uni quittera définitivement le marché commun. L'économie irlandaise dépend du Royaume-Uni. C'est son principal partenaire commercial et les échanges entre l'Irlande et l'Europe continentale, 130 milliards d'euros par an, transitent par la Grande-Bretagne qui sera alors un pays tiers. Préparez-vous donc, dit le document, à des délais de livraison rallongés, à fournir de nombreux papiers et à subir des coûts plus élevés. Au final, le plan est plus un rappel à grand bruit qu'une stratégie innovante, alors que le Brexit a été quelque peu éclipsé par la pandémie. Seule nouveauté et unique mesure chiffrée, des allocations de 9 000 euros pour chaque nouvelle embauche Brexit, par exemple des agents administratifs. Emeline Vin, Dublin, RFI.
la faune sauvage toujours plus menacée, selon un rapport que vient de publier l'organisation WWF, World Wildlife Fund, plus de 70% de la population animale sauvage a disparu au cours des 50 dernières années à travers le monde. Le rapport pointe notamment la déforestation, mais aussi l'expansion agricole comme principaux facteurs de ce déclin très significatif. Le rapport adresse également un avertissement et prévient qu'en continuant à détruire les habitats naturels de la faune, on augmente considérablement le risque de voir apparaître de nouvelles pandémies, mais aussi de nouvelles zoonoses, ces maladies d'origine animale qui finissent par se transmettre à l'homme. Rappelons sur ce point précis que l'Australie est l'un des pays qui déforeste le plus au monde. En France, le procès des attentats de janvier 2015 se poursuit. Hier, des rescapés des attaques à la rédaction de Charlie Hebdo se sont exprimés. Ça a notamment été le cas de Rhys, qui est depuis ces attentats devenu le directeur de la publication. Écoutez le compte-rendu de Laura Martel pour RFI.
Comme les autres survivants, Rhys est revenu sur le déroulé de l'attaque, ses blessures physiques et psychologiques. Mais finalement, c'est surtout de liberté, de défense de la liberté qu'il a parlé. Comment être le plus libre possible? C'est ça qui fonde Charlie Hebdo, explique Rhys. Et c'est ce qui a fait du journal la cible d'un totalitarisme islamiste pour lequel une tolérance s'est développée ces dernières années dans la société, déplore-t-il. Alors quand on lui demande s'il regrette la publication des caricatures, si défendre un principe vaut de risquer la mort, la réponse fuse. Pourquoi vit-on? Pour être libre ou esclave? Moi, je ne vais pas vivre soumis à l'arbitraire démentiel de fanatiques. C'est le combat d'une vie, il n'y a pas à regretter de vivre pour la liberté. Ce combat, Rhys le poursuit aujourd'hui, malgré ses amis perdus, une mutilation plus terrible que celle des corps, selon ses mots, malgré aussi les conséquences sur sa vie, une vie d'assigné à résidence, dit-il. Signaler tous ses déplacements, ne recevoir personne chez soi, même une simple promenade dans la rue avec sa femme est un dilemme. On le fait parfois, c'est possible, mais est-ce prudent, pointe-t-il. Un engagement dont les conséquences touchent jusqu'au cœur de son intimité. On avait un projet d'adoption, mais on nous a fait poliment comprendre que jamais on ne confierait un enfant à des gens sous protection, indique Chris. Au bout du compte, ce que je regrette, conclut-il, c'est de voir que les gens sont si peu combatifs pour défendre la liberté. Ce n'est pas un don du ciel, ce n'est pas normal. Regardez notre histoire, c'est exceptionnel qu'on soit libre.
Un mot rapide de sport maintenant pour parler de l'US Open où malheureusement l'Australien Alex de Minaur vient de perdre face à l'Autrichien Dominic Thiem. 6-1, 6-2, 6-4, il était en quart de finale face à l'Autrichien. Alors c'est triste évidemment, néanmoins ça reste une rencontre historique puisque c'est la première fois qu'un Australien allait aussi loin dans le tournoi du Grand Chelem américain. Et pour finir, on va jeter maintenant un œil à la météo en Australie pour ce jeudi. Il y a quelques averses à Perth où il fait 19 degrés, 24 degrés à Adelaide où en revanche c'est grand soleil. À Melbourne aussi avec 20 degrés, pareil à Hobart avec 17 degrés. En revanche, on a un petit peu de nuages dans le ciel de Canberra avec 14 degrés. À Sydney, quelques averses mais globalement le temps est plutôt correct, 19 degrés. À Brisbane, 23 degrés. En revanche, les averses ont tendance à s'intensifier au cours de la journée et comme d'habitude, ça en devient presque ennuyant. À Darwin, il fait très très beau et 35 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.